Amis, frères et sœurs, voici une parole que vous n'entendrez nulle part ailleurs. La grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus, le Christ, le vivant, le ressuscité.
Ping An. Cette phrase en taïwanais signifie que Dieu vous accorde la paix, une relation apaisée avec Dieu et avec les autres. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu avec les femmes du comité de la Journée mondiale de prière des femmes de Taïwan. Elles ont préparé ce moment que nous vivons en communion avec elles en 2020, car ces moments sont préparés longtemps à l'avance. Et donc à Taïwan, les femmes étaient en pleine pandémie de Covid-19 quand elles ont préparé ce moment pour nous. Elles sont aujourd'hui dans leur pays en sachant que depuis vendredi soir, tout autour de la terre, des femmes et des hommes prient avec elles pour les causes qui les animent, pour les situations sociales qui sont difficiles dans leur pays, pour les espérances qu'elles ont pour leur famille, leur travail, leurs droits en tant que femmes et leur droit à l'égalité avec les hommes, et puis aussi pour l'écologie, puisque Taïwan est un lieu où il y a énormément de réserves naturelles, mais ce n'est pas encore un lieu où l'écologie est complètement respectée et où la lutte pour l'écologie n'est pas encore tout à fait en marche, comme c'est le cas dans beaucoup de pays sur notre planète. Et c'est donc une préoccupation commune avec elle que nous avons ce matin. Chaque année, la Journée mondiale de prière des femmes, ce mouvement créé au XVIIIe siècle par deux femmes protestantes aux États-Unis et qui a ensuite essaimé partout dans le monde avec des femmes de toutes confessions chrétiennes confondues. Chaque année, cette initiative permet à un pays d'être mis en exergue, de pouvoir appeler à la prière à travers le monde. Cela peut paraître étrange de se préoccuper tout d'un coup d'un lieu si éloigné, d'une île toute petite qui est un peu plus grande que la Corse. Hein, il faut imaginer Taïwan comme une île assez petite par rapport à notre pays, en superficie mais très peuplée. C'est un peu étrange peut-être de dire que nous pouvons être en communion de cette façon. Et pourtant, il semble bien qu'ensemble, nous ayons des préoccupations communes. Alors ce matin et toute cette journée, puisque nous aurons ensuite une présentation du pays dans la salle mono à la suite de ce culte, nous aurons un repas avec des recettes que nous avons préparées en hommage à ces femmes de Taïwan. Donc vous pourrez déguster ces recettes après le culte. Nous allons penser à elles, prier avec elles, avec leurs mots. Elles nous ont prêté leurs mots pour que nous disions avec elles leurs préoccupations et leurs prières à Dieu. Et c'est donc ainsi aujourd'hui que nous allons célébrer de nouveau cette journée mondiale de prière des femmes. Ce matin, c'est Sacha Denim qui est avec nous à l'orgue et qui va accompagner ce temps de culte. Merci à Sacha d'être venue avec nous ce matin. Je vous invite à nous réunir dans la prière avec le premier répond de la liturgie. Nous suivrons notre liturgie ce matin et nous avons choisi avec Agnès les cantiques que nous chanterons en fonction évidemment du thème. Voilà. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le premier répond que vous trouvez au début des psautiers français. Vous avez toute la liturgie. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues d'autres confessions ce matin, nos sœurs catholiques qui sont là avec nous, et puis peut-être d'autres personnes qui sont venues spécialement pour cette occasion. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu.
l'Éternel avec les mots du psalmiste. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause des adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et nous poursuivons notre louange en prenant maintenant dans le psautier français, le psaume 84. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Psaume 84. Prenez place. Écoutons maintenant ce que Dieu veut de nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours qui viennent. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Fais cela et tu vivras. Les femmes de Taïwan se présentent devant Dieu. Nous nous unissons à leur prière. Dieu d'amour, nous te confessons nos péchés. Nous n'avons pas su prendre soin de la terre que tu nous as confiée. Nous l'avons utilisée de manière injuste, provoquant pollution et extinction de diverses espèces. Dieu miséricordieux, nous sommes égoïstes et arrogantes. Nous avons négligé la dignité humaine. Nous négligeons les besoins des minorités, des migrants et des immigrés. Nous entendons les cris de la terre, des femmes, des enfants, des jeunes. Nous n'avons pas suffisamment agi en réponse à ta grâce que nous avons reçue. Cette absence d'action a engendré la souffrance et l'oppression de certaines personnes. Ô Dieu fidèle et juste, puisses-tu nous pardonner, nous purifier et nous aider à vivre dans la lumière. Que ton amour comble notre foi. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous connaissions la grandeur incommensurable de ton amour. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dans la première lettre de Jean, nous lisons ceci. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait déraisonner, Dieu est plus grand que notre intelligence. Écoutons la parole de l'apôtre. Elle est certainement digne de confiance, cette parole. Elle mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir les pécheurs dont je suis le premier, la première. À chacun de nous, elle redit explicitement le pardon de Dieu et ouvre le chemin d'une vie libre et responsable. Allons dans la paix du Christ. Amen. Nous écouterons une confession de foi qui vient d'une femme d'Amérique du Sud. Dieu est assise et pleure. La merveilleuse tapisserie de la création qu'elle avait tissée avec tant de joie est mutilée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffon, sa beauté saccagée par la violence.
Dieu est assise en pleurant, mais voyez, elle rassemble les morceaux pour tisser à nouveau. Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations causées par la cruauté, l'écrasement, l'ignorance, le viol, les tueries.
Elle rassemble les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyer, des initiatives pour la paix, des protestations contre l'injustice. Toutes ces choses qui semblent petites et faibles, les mots et les actions offertes en sacrifice dans l'espérance, la foi, l'amour.
Et voyez, elle retisse tout cela avec les fils d'or de l'allégresse, en une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que ne l'était l'ancienne.
Dieu est assise, tissant patiemment, avec persistance, et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel sur son visage baigné de larmes.
Et elle nous invite non seulement à continuer à lui offrir les lambeaux et les chiffons de notre souffrance et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à ses côtés, devant le métier de l'allégresse, et à tisser avec elle la tapisserie de la création nouvelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Pour cette célébration 2023, les femmes de Taïwan ont voulu partager avec nous leur méditation sur un texte de la lettre aux Éphésiens de Paul. On appelle cette lettre traditionnellement la lettre aux Éphésiens, même si sur les manuscrits, nous n'avons pas retrouvé l'adresse aux Éphésiens qui a été inscrite ensuite, dans le temps, dans la tradition, sur cette lettre. Mais en tout cas, il semble bien que cette lettre a été adressée à ce qu'on appelait l'Église d'Asie, donc qui était du côté de la mer Égée. Et nous avons donc partagé avec elle cette méditation qu'elles nous ont envoyée, et elles ont choisi comme thème de cette année « Votre foi m'interpelle ». Et c'est un passage de cette lettre aux Éphésiens dans le chapitre 1, versets 15 à 19, que nous allons partager avec elle maintenant. Voilà pourquoi, moi aussi, et c'est Paul qui parle, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous a fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, là, à nous, les croyants, son énergie, sa force toute puissante. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 186 dans les louanges et prières. Ce sera les strophes 1, 3 et 5. Et nous nous levons. Je vous invite à la prière. Éternel, nous voici devant toi, en communion avec ces femmes si lointaines et pourtant si proches dans leurs préoccupations. Que ton Esprit Saint, qui parcourt le monde entier, nous éclaire en ce lieu ce matin, comme il éclaire toutes celles et tous ceux qui célèbrent cette journée mondiale de prière des femmes. Qu'il y ait encore besoin de parler de la condition des femmes aujourd'hui est une aberration. La moitié du genre humain n'est pas traitée comme l'autre moitié dans beaucoup de lieux sur notre terre. Et nous sommes obligés d'élever la voix pour faire entendre une cause qui devrait être entendue depuis tellement longtemps. Toi, notre Dieu, tu as inspiré à ton Fils Jésus cet esprit d'accueil, cet esprit sans condamnation, sans jugement, sans discrimination. Permet que nous puissions vivre de cet esprit et que nous recevions à travers ces témoignages que nous allons partager ce matin l'énergie nécessaire pour continuer à lutter ensemble pour le droit de chacune et de chacun. Amen. Paul écrit à l'église d'Asie, celle qu'on appelle ainsi à l'époque de Paul. Éphèse est la principale ville de cette église, de cet espace qui est appelé église d'Asie. Ce n'est pas le contexte le plus facile pour le développement de la nouvelle voie religieuse que propose l'apôtre. Le livre des Actes nous explique dans le chapitre 19 comment se déroule la mission de Paul. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, qui était passé par l'Asie mineure, descendait à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean ». Alors Paul dit « Jean a baptisé d'un baptême de changement radical ». Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophète. Ces hommes étaient une douzaine environ, en tout. Ce témoignage du livre des Actes des apôtres montre une façon étonnante de penser la foi. Il semble bien que ces hommes soient croyants, mais d'après la conception de Paul, tout est à refaire. Depuis le temps où Jean baptisait dans le Jourdain, Jésus est venu apporter une nouvelle voie, et il s'agit maintenant de la prendre. Mais pour ces hommes, qui sont déjà croyants, déjà engagés dans leur voie spirituelle, la proposition n'est pas très facile à recevoir et le livre des Actes continue. Il se rendit à la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Il eut des discussions où il usait de persuasion en ce qui concerne le règne de Dieu. Mais comme quelques-uns obstinément réfractaires parlaient en mal de la voie, devant la multitude, il s'éloigna d'eux et prit les disciples à part. Il discutait avec eux chaque jour dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs,
entendirent la parole du Seigneur. Il semble plus facile à Paul de convaincre les Grecs, ceux qui ne connaissent pas encore la foi juive, que de convertir au christianisme naissant des Juifs qui sont ancrés dans la religion de leur Dieu. Jésus et Paul étaient originellement juifs et on pourrait imaginer que le chemin soit moins long pour un juif que pour un païen pour accéder au christianisme, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Pourtant, à Éphèse, dans ce port donnant sur la mer Égée, on vénère la déesse Artémis, déesse de la chasse, protectrice des jeunes filles et déesse de la fertilité. Ce n'est pas forcément plus facile comme contexte pour convaincre qu'il y a l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde. Cette religion génère un commerce florissant d'objets de dévotion, comme des autels portatifs en argent, par exemple. Et ceux qui les fabriquent vivent de cet artisanat, et l'idée qu'on leur retire leur gagne-pain ne leur est pas très agréable. Toutefois, il semble que beaucoup aient suivi Paul dans sa voie nouvelle, à la suite de Jésus-Christ mort et ressuscité. En pensant à cette lettre de Paul adressée aux Éphésiens, on peut se demander ce qu'il attend d'eux réellement. En effet, il se réjouit qu'ils se soient convertis, mais en même temps, il prie pour que Dieu leur fasse réaliser véritablement ce que signifie cette conversion. Comme si cela ne suffisait pas, comme si là aussi il y avait encore beaucoup à faire. En premier lieu, il voudrait que les Éphésiens comprennent quelle espérance donne à chacun l'appel de Dieu. C'est bien ainsi que les femmes du comité de la Journée mondiale de prière des femmes de Taïwan ont compris cette lettre de Paul en entendant le témoignage d'une de leurs sœurs prénommée Jojo. Elle avait une espérance, mais s'est rendue compte dans sa foi qu'elle était appelée à être un témoin, un témoignage vivant pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors écoutons la lettre que les femmes de la JMP de Taïwan ont eu envie de lui écrire pour lui dire combien sa foi leur avait fait comprendre quelque chose d'essentiel à leur propre foi, que l'espérance trouvait son énergie dans une vocation, dans un appel.
Chère sœur Jojo, lorsque vous étiez jeune, votre père vous a demandé de trouver un emploi au lieu de vous laisser poursuivre vos études. De son point de vue, les filles n'avaient pas besoin d'une éducation, mais devaient se marier. Cependant, vous avez insisté pour continuer vos études. Vous avez demandé à Dieu de vous donner la sagesse de dialoguer avec votre père pour qu'il puisse changer d'avis. Vous avez prié pour qu'il comprenne que les filles et les fils ont le même droit à l'éducation. Petit à petit, votre père a fini par comprendre que les filles ne sont pas inférieures aux garçons. Après avoir obtenu votre diplôme, vous êtes allé travailler. Ce sont alors vos supérieurs qui regardaient de haut les femmes instruites et exerçant une profession. Là encore, vous avez recherché la sagesse auprès de Dieu pour résister à la pression et communiquer avec vos supérieurs afin que les performances des femmes et des hommes soient évaluées sans préjugés sexistes. Vous vous êtes rendu compte que le chemin serait long avant la disparition de toute discrimination sexiste et sexuelle. Cependant, vous n'abandonnez pas et vous faites de votre mieux pour faire comprendre que les femmes et les hommes ont des droits égaux.
La seconde chose que Paul voudrait que les Éphésiens prennent conscience, dont Paul voudrait que les Éphésiens prennent conscience dans leur toute nouvelle foi, c'est de la richesse de l'héritage qu'ils partagent désormais avec celles et ceux qu'ils appellent les saints. Ceux qui sont déjà de la voie et peut-être plus précisément ceux qui sont du peuple élu, du peuple juif et qui ont suivi Jésus en le reconnaissant comme Christ dès les premiers jours. Ce que Paul met en avant ici, c'est la façon qu'ont les disciples de Jésus de vivre leur foi et les fruits qui en résultent. La communion des disciples du Christ est avant tout source de compassion, de solidarité et d'amour du prochain. C'est sans doute cette expérience de la foi comme énergie d'entraide qui a touché les femmes de Taïwan dans le témoignage de la jeune fille prénommée Dai Kan, à qui elles écrivent cette lettre exprimant leur reconnaissance et leur émerveillement.
Chère sœur Dai Kan, je remercie sans cesse Dieu pour votre rétablissement et votre guérison de cette douleur causée par la maltraitance verbale et sexuelle que vous avez subie enfant. Cette souffrance insoutenable vous a conduite à vous demander si vous méritiez d'être aimée. Puis un enseignant est venu à votre secours lorsque vous aviez 14 ans. Vous avez trouvé un soutien auprès de travailleurs sociaux et de personnes qui vous ont prise sous leur aile. Grâce à elle, vous avez fait l'expérience de l'amour de Dieu. Vous êtes devenu un disciple du Christ. Bien que souffrant d'un passé douloureux, vous avez toujours refusé de vous taire. C'est en écrivant et en peignant que vous avez raconté votre histoire. Ainsi, vous encouragez les femmes qui ont subi des maltraitances physiques et psychique à faire confiance à notre Seigneur, à défier toutes les étiquettes négatives qu'on leur colle et à créer de nouvelles images. Aujourd'hui, vous êtes mère de 2 enfants, vous êtes devenue une bénédiction pour eux et pour bien d'autres personnes.
La résilience de cette femme constitue maintenant ce que Paul appelle l'héritage des saints. Ainsi, d'expérience de foi en témoignage de foi, l'héritage de l'amour vécu en Jésus le Christ le Sauveur se transmet et édifie les croyants qui rejoignent cette longue chaîne de témoins. Paul voudrait aussi que les nouveaux convertis comprennent quelle puissance, quelle énergie et quelle force la foi en Jésus le Christ procure à celles et ceux qui s'en remettent à lui. C'est aussi ce qui a impressionné les femmes de Taïwan dans le témoignage de Pearl, leur sœur dans l'épreuve de la pandémie de Covid-19, à qui elles ont choisi d'écrire cette lettre admirative.
Chère sœur Pearl, en tant qu'agent d'entretien hospitalier en première ligne, pendant la pandémie de Covid-19. Vous avez risqué votre vie pour nettoyer et assainir les chambres des patients hospitalisés. Vous ne pouviez pas rentrer chez vous après le travail pour ne pas risquer de contaminer vos 3 jeunes enfants. Malgré vos maigres revenus, il vous a fallu louer une chambre et y vivre pour minimiser les risques de contamination. Pendant votre auto-isolement, vous ne pouviez pas vous occuper de votre famille et vous vous êtes senti frustré et seul. Je suis très impressionnée par les sacrifices que vous avez faits et je prie pour vous sincèrement, avec l'espérance que le Seigneur de ma vie sera aussi celui de votre force.
Cette lettre résonne comme une question. Qu'aurais-je fait à la place de Pearl? Aurais-je trouvé la force de tenir dans l'adversité et la division intime? Les femmes de Taïwan qui sont en communion avec nous aujourd'hui ont voulu rendre compte de ces témoignages qui les ont édifiées en utilisant ce média si particulier qu'est la lettre, une épître à la manière de Paul pour chacune de ces femmes qu'elles admirent et qui les inspirent. Paul, lui qui a peut-être écrit aux Éphésiens alors qu'il était en prison à Rome et qui semble vouloir garder ce fil entre lui et celles et ceux auprès desquels il a témoigné de sa foi à Éphèse quand il est venu les voir. Comme si son témoignage auprès d'eux les avait liés pour toujours dans une alliance spirituelle intime. Écrire une lettre, une pratique que nos sociétés perdent petit à petit et qui n'est pas tout à fait remplacée par les mails et les SMS. La lettre est un cadeau concret. On l'ouvre, on la garde, on la déplie et on la range précieusement. Pour qu'elle disparaisse, il faut la froisser, la mettre à la corbeille, la brûler pour qu'elle ne tombe pas dans d'autres mains. Elle a une existence réelle. La lettre transmet les mots avec leur abstraction et leur symbole, mais c'est une main qui l'écrit, une intimité qui la pense, même si toutes les lettres ne sont pas aussi précieuses, bien sûr. Elle est une trace du corps qui l'a écrite, une trace singulière dont la graphie n'est pas celle d'un autre. Elle est communication, bien sûr, mais aussi engagement. Comme si la vie de l'autre nous donnait des devoirs, nous incitait à un acte de foi envers lui. Oser écrire une lettre, c'est oser croire que l'autre la lira comme on l'a écrite, qu'il la recevra dans le même esprit. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il réactive cette confiance. Quand les femmes de Taïwan écrivent à ces femmes qui les ont édifiées par leur vie, elles osent dire ce qu'elles ont reçu dans la foi et deviennent à leur tour des témoins du Christ. La journée mondiale de prière des femmes relève du même acte de foi que celui d'écrire une lettre à des sœurs dont les réalités de vie sont toutes différentes et qui vivent dans des contextes divers et parfois tellement éloignés géographiquement, mais surtout culturellement, qu'on pourrait penser qu'une unité est impossible. Pourtant, chaque année, avec chaque pays, des points communs émergent et révèlent leur portée universelle. Parfois pour le meilleur, comme cette espérance d'égalité dont nous venons d'entendre parler, cet amour pour les enfants, pour la famille, ou ce sens du devoir pour le prochain et pour notre planète. Et parfois pour le pire aussi, ce sexisme et ces discriminations partout présentes, cette violence qui emprisonne et qui empoisonne les rapports humains, cette pauvreté qui empêche d'être libre. Cette année encore, les femmes qui habitent sur une petite île lointaine, 15 fois moins étendue que la France, mais très peuplée, ont osé envoyer au monde leur épître, dans laquelle elles ont placé leur foi, leur espoir, leur réalité de vie et leur énergie à changer le monde. Prier avec elles aujourd'hui, c'est recevoir leur lettre, la déplier et la lire comme la trace d'une alliance que Dieu tisse entre nous et elles. Recevoir leur témoignage, c'est communiquer au-delà de nos différences dans une foi commune, exprimée différemment. Emprunter leurs mots pour prier, c'est faire l'expérience de l'autre comme révélateur de soi-même. Alors, nous vous invitons à vous associer à cette prière que les femmes de Taïwan ont écrite.
Dieu miséricordieux, nous venons à toi en prière, comme ces femmes fidèles qui t'ont exposé leurs luttes et leurs espoirs. Elles n'ont pas été vaincues par les difficultés, mais au contraire, elles ont été raffermies par ta sagesse. Nous ne sommes pas seuls, car tu es à l'écoute. Nous te remercions pour ta présence, tes conseils et ta protection lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre. Puissions-nous te glorifier et devenir un témoignage vivant du Christ. Amen.
Et nous pouvons ensemble prendre le psaume 130 du fond de ma détresse, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier.
Prenez place.
Alors, c'est le moment de quelques annonces. On va partager ça avec Agnès, parce que mercredi soir, il y a un événement important ici, avec les jeunes. Alors, on va peut-être commencer par mardi. Mardi, avec le partage biblique, donc ça commence par un culte d'intercession. On peut venir à chaque chose différemment. Le culte d'intercession à 12h30, ici même au temple. Et puis à 13h15, nous allons déjeuner ensemble. Et là, comme c'est une grève apparemment qui est annoncée, il faudrait peut-être que chacun, pour déjeuner, apporte ce qu'il faut, parce que là, on ne peut vraiment pas savoir qui sera là, qui ne sera pas là. Et donc, j'espère que ceux qui peuvent venir par des moyens autres que les transports en commun bloqués seront avec nous. Et puis ensuite, à 14h15, nous commençons le partage biblique sur la question des viandes et du végétarisme dans la Bible, puisque cette année, le thème de l'étude biblique est les nourritures de la Bible. Voilà. Ensuite, mercredi.
Mercredi soir, à partir de 19h, nous avons rendez-vous avec le groupe de jeunes oratoires pour parler de Dieu au féminin. Ça tombe bien, on est le 8 mars. Donc, rendez-vous à 19h au temple pour partager ce moment. Ensuite, nous nous retrouverons au à la salle Mono pour partager un repas préparé par l'entraide.
Et le même soir, je serai pour ma part, alors Agnès ne pourra pas être avec moi et je le regrette beaucoup, à la projection en avant-première de la nouvelle exposition immersive de Yann Arthus-Bertrand sur les femmes, qui s'appelle Woman, donc à la Porte de Versailles. Et donc nous avons été invitées toutes les deux, mais Agnès sera avec le groupe de jeunes pour parler du même thème, mais autrement. Parce que nous avons participé toutes les deux à ce film de Yann Arthus-Bertrand, parmi les 2000 personnes qui ont témoigné de leur vie de femme dans leur ministère particulier, mais dans leur vie en général. Et donc, toutes les deux, nous avons participé à cette même initiative. Nous en sommes très fiers. Et nous sommes donc toutes les deux invitées. Je serai là pour te représenter, Agnès, si tu veux bien. Voilà. Et donc, voilà, je vous invite à donc prendre date pour aller voir cette exposition immersive qui vous permettra de voir tous ces destins de femmes qui sont mis en valeur dans cette exposition et qui peuvent nous permettre de comprendre mieux ce que c'est encore dans notre monde que la condition des femmes qui a encore beaucoup, beaucoup à changer dans beaucoup d'endroits. Voilà. Je vous invite aussi à la pause spirituelle d'Agnès jeudi midi. Jeudi midi à midi et demi ici, la pause spirituelle, et c'est Agnès qui sera avec vous. Ensuite, nous avons le samedi qui sera très pris. Samedi matin, le cours d'hébreu avec Gilles Castelnau qui sera là le samedi matin. Ensuite, nous avons l'après-midi, le concert spirituel à 18h avec Alexandre Korovitch et Célia Triplet. Donc Alexandre au piano et Célia au violon pour un concert spirituel qui nous amènera dans de merveilleuses compositions de musique française. Et vraiment, venez à ce moment particulièrement beau. Et puis, l'après-midi, il y a le goûter organisé par les bénévoles de l'entraide, un goûter d'accueil pour qui veut aller passer un bon moment dans la salle Roberti, dans la maison presbytérale au rez-de-chaussée. Vous êtes tous les bienvenus si vous avez envie de partager un moment avec d'autres personnes. Voilà. Et alors, évidemment, le chœur répète ce même jour, donc le samedi, pour le culte qui suivra. Voilà. Alors, je crois que c'est bon. Et bien sûr, alors ce sera le 11 mars. Et puis le dimanche, évidemment, nous nous retrouvons ici même pour le culte à 10h30. Voilà. Avec l'éducation biblique et donc tous les enfants de l'éducation biblique. Voilà. Alors, il y a aussi le cours de grec, comme habituellement. Donc, ceux qui sont habitués à venir au cours de grec, n'hésitez pas à reprendre le chemin de l'école, si j'ose dire, puisque là, il y a eu quelques vacances. En tout cas, c'est maintenant le moment de partager ensemble ce que nous avons de meilleur pour que l'évangile soit annoncé. Et il peut être annoncé aussi par les actions d'entraide. Nous l'avons vu avec les femmes de Taïwan qui ont parlé de cette solidarité. Et donc aujourd'hui, l'offrande est pour l'entraide de l'Oratoire du Louvre. Donc donner le cœur joyeux, et l'entraide enverra son don à la Journée mondiale de prière des femmes, qui ne se contente pas de prier, mais qui agit. Puisque chaque année, il y a une très très forte solidarité pour les associations qui s'occupent particulièrement de la condition féminine dans les pays qui organisent. Et donc, nous enverrons notre don, comme promis, comme chaque année, à la JMP. Voilà. Merci.
Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je vous rappelle, nous vous rappelons que vous êtes tous et toutes invités au repas préparé par nos soins en la salle Mono. C'est un buffet. Vraiment, si vous êtes disponible, ne vous privez pas de ce moment de rencontre et de cette découverte de petites recettes qu'on ne fait pas tous les jours. Et la présentation du pays également. Donc rendez-vous juste après le culte à la salle Mono, à la maison presbytérale, juste en face du temple. Et nous prions avec les femmes de Taïwan.
Dieu miséricordieux, tu sais comment notre pays est pris en étau dans une lutte entre superpuissances. Bien que notre pays ne soit pas reconnu par la communauté internationale, il contribue de son mieux pour porter assistance dans le monde. Nous te prions de renouveler la force et la sagesse des habitants de notre pays, afin qu'ils puissent faire face à un avenir incertain dans le monde.
Dieu miséricordieux, nous te prions de renouveler la vie des habitants de notre pays, afin qu'ils puissent de mieux en mieux protéger notre mère, la Terre, de tous les dangers qui la menacent.
Dieu miséricordieux, nous te prions de renouveler la sagesse des habitants de notre pays, afin qu'ils puissent protéger les femmes et les jeunes filles, qu'ils puissent aussi défendre les personnes marginalisées, opprimées, pauvres et sans défense. Donne à chacun le courage de parler en leur nom et inspire les dirigeants et les dirigeantes pour qu'il leur soit créé un lieu de vie plus sûr.
Dieu miséricordieux, nous te prions pour les personnes qui ont perdu un être cher pendant la pandémie du Covid-19 et qui ne trouvent pas la consolation. Accorde-nous la capacité d'aider et de réconforter chacun, chacune, aujourd'hui, dans ce monde d'après.
Dieu de bonté, nous te prions pour l'équipe de la Journée mondiale de prière réunie à Taïwan, qui a préparé en 2020 la célébration que nous vivons aujourd'hui, en mars 2023.
Et nous te prions de nous garder unis les uns aux autres, les unes aux autres. Et dans cette espérance, nous rassemblons nos prières imparfaites dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce nous bénit et nous garde, qu'il ouvre nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres, comme les autres une bénédiction pour nous. Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen. Et en conclusion de ce culte, nous allons chanter maintenant le cantique qui a été photocopié à votre attention. qui s'intitule « À l'horizon, le jour s'éloigne ». Et il se trouve que c'est le chant de la Journée mondiale de prière. Donc, nous allons peut-être l'écouter une fois.
Pas en entier,
mais au début, pour que nous puissions enchaîner les strophes les unes avec les autres. Merci.
Alors apparemment c'est un peu compliqué, Sacha, on va reprendre, parce que c'est pas un chant très connu ici, donc on va le reprendre une fois, on y va.
À l'horizon, le jour s'éloigne, l'obscurité descend sur nous.
Voilà, bon dimanche à toutes et à tous et on se retrouve aux 4 rue de l'Oratoire, deuxième étage, Chalmono, pour le buffet taïwanais et la présentation du pays.